Donc, aujourd'hui, nous continuons notre mini-série sur le mariage chrétien. Et comme j'avais dit aux autres prises, aux deux premières sessions à l'automne, on s'inspire beaucoup du livre de Timothy et Cathy Keller, Le mariage, un engagement complexe à vivre avec la sagesse de Dieu. Et une idée de base qui revient souvent dans ce livre, c'est que le mariage chrétien est une extension de la vie chrétienne. Donc, on continue dans le mariage ce qu'on a déjà commencé quand on a reçu Christ, qu'on s'est joint à son Église et qu'on vit dans la communauté des enfants de Dieu. Et c'est une intensification dans le microcosme qu'est le mariage. Hein? Le foyer, le mariage, c'est un peu comme un microcosme de l'Église, un microcosme aussi du royaume de Dieu. Et je vous rappelle les deux sujets qu'on a déjà vus dans cette mini-série que nous visitons de temps en temps. Hein? On ne la fait pas de semaine en semaine. Alors, le premier sermon qui était en octobre, le secret du mariage chrétien. Donc, c'est une amitié chrétienne où deux personnes du sexe opposé cheminent ensemble dans le chemin de la sanctification. J'espère que ça évoque au moins un petit souvenir. Et la deuxième session qu'on avait faite en décembre, la puissance du mariage chrétien, on avait parlé de la soumission mutuelle. On la vit dans l'Église et on la vit dans la famille et particulièrement dans le couple. Et tout à l'heure, on a entendu la lecture d'une des plus belles histoires bibliques, on pourrait dire une romance en préparation. Alors, pour ceux qui, je vous rappelle un peu que le background, c'est que Ruth est une immigrante, une veuve et une immigrante dans le pays d'Israël. Étant immigrante et étant veuve, elle a beaucoup de difficultés au niveau matériel, financier et autres. Et on voit qu'elle rencontre un certain Boaz qui, lui, est un propriétaire terrien en Judée, en fait à Bethléem. Et voilà, deux étrangers, l'un pour l'autre, que Dieu va unir dans le mariage. Ils sont solitaires, ce Boaz, ce Ruth, et on va dire dans notre langage à nous, ils vont tomber en amour. Tout au moins, on le suppose. Et dans le texte qu'on a lu, en fait, je ne vais pas vraiment faire une étude en profondeur de ce texte. C'est juste une introduction pour mon sujet, qui est aimer l'inconnu avec qui je suis marié. Hein? Vous l'avez peut-être vu dans le titre. Mais on voit comment Boaz y est tendre avec Ruth, elle qui est l'immigrante, elle qui est vulnérable. On voit comment il la protège, puis il lui dit, je vais te protéger. On voit comment il est généreux avec elle. Il s'organise pour qu'elle ait ce dont elle a besoin. Et puis on voit aussi comment il l'encourage dans ses paroles. Il lui dit, wow, je suis au courant de tes belles qualités, de tes bonnes actions. Et donc, quelle belle image, quelle belle leçon pour nous. Nous qui, en tout cas plusieurs d'entre nous, on est des chrétiens qui veulent apprendre à mieux aimer dans notre mariage. Hein? On peut peut-être prendre exemple sur Boaz ici, qui accueille, qui remarque les qualités, qui protège, qui est généreux, qui est tendre. Mais là où je veux en venir, c'est que j'espère que ces belles dispositions qu'on a vues dans le texte, les belles dispositions de Boaz et celles de Ruth aussi, que ça a continué pendant tout leur mariage. On peut se poser la question, est-ce que ça a été longtemps comme ça? On espère que oui. Hein, c'est tellement un beau couple qu'on se dit, oui, certainement. Mais en fait, nous, on sait que lorsqu'on tombe en amour, lorsqu'on commence une relation romantique, c'est normal, on est rempli d'un sentiment de confiance dans la relation et aussi dans la personne aimée. Très grande confiance dans ses qualités, très grande confiance dans le potentiel de réussite de la relation. Et c'est souvent cet état d'être en amour qui nous permet de faire ce saut vraiment courageux de dire « Marions-nous, unissons-nous pour la vie ». Je me souviens d'une phrase de l'auteur de psychologie populaire, Scott Peck, que j'aimais bien lire à une certaine époque. Et lui, il disait que l'expérience de tomber en amour, c'est la dose d'illusion que cela nous prend pour faire l'acte insensé de se marier. Parce qu'une fois que tu te maries puis que tu fondes une famille, puis après que le sortilège sentimental est passé, eh bien, tu es dedans, tu es lié par le mariage et il faut continuer. Alors, oui, ça paraît très cynique comme manière de dire les choses, mais il y a quand même un élément de vérité. Moi, j'ai deux bons amis chrétiens avec qui j'ai travaillé dans l'œuvre étudiante et ils sont mariés, ils ont un beau mariage, ils ont deux beaux enfants, ils ont fondé un couple, un foyer chrétien solide. Merci au Seigneur quand tu as un couple qui va bien dans le Seigneur, c'est une grâce de Dieu. Mais la manière qu'ils ont commencé leur relation, c'était un peu fou. Je vais vous raconter leur histoire. Je ne leur dis pas leur nom parce que je vous dis pas leur nom parce que je les ai pas consultés. Ils savent pas que je raconte leur histoire ce matin. Et j'espère qu'ils visiteront pas notre site web pour m'écouter. Mais en tout cas, eux, ils se sont rencontrés comment? Eh bien, sur le site web Top Chrétien, dans le signet ou la page des rencontres, j'imagine. Quelque chose comme ça. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose que je recommande, de rencontrer l'âme sœur à l'Internet. Eux, il se trouve que ils vivaient à l'époque dans deux pays très éloignés l'un de l'autre. Elle, une Québécoise moderne, plutôt libérée, mais qui a rencontré Jésus-Christ assez récemment, avant sa démarche sur Top Chrétien. Donc, elle venait de recevoir Christ et devenir chrétienne. Et lui, un chrétien d'Algérie, d'origine musulmane, lui aussi récemment, devenu un croyant en Jésus-Christ. Amen, oui. Elle est devenue convaincue que ce gars charmant et exotique qui lui parlait dans son écran d'ordinateur, c'était l'homme de sa vie. Et c'était réciproque. Alors, elle est allée le visiter dans son village dans les montagnes d'Algérie et elle est revenue au Canada mariée avec lui. Je ne sais pas, vous dites « Amen, alléluia ». Les dames sont contentes, mais moi, je trouve ça vraiment risqué, là, non? Et en fait, leur vie de couple a très bien commencé, leur vie d'amoureux, dans leur nid d'amour en Abitibi. Oh là, je commence à donner trop de détails. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, ils persévèrent bien avec l'aide de Dieu dans leur mariage, mais comment c'était difficile pour eux au moment où le sommet émotionnel a tiré à sa fin et que les vrais défauts l'un de l'autre, avec les différences culturelles, ont commencé à devenir plus évidentes. C'était vraiment, je ne dirais pas l'enfer, mais ils ont vraiment eu de la difficulté. Ils s'en sont sortis. C'est pour illustrer le fait que quand on tombe en amour, les difficultés réelles, les défauts concrets de l'autre personne, je ne dis pas qu'on ne les voit pas, mais on est tellement rempli d'optimisme que, voyons, on est... Oui, j'ai complètement oublié mon PowerPoint. Oui, c'est ça. On les voit petits parce qu'on est rempli d'optimisme. C'est mineur. Ah oui, il est comme ça, mais on va pouvoir surmonter ça. Des fois même, on se dit, je vais être capable de le changer, ce qui est toujours une erreur. C'est pas vrai, ça. Oui. Et lorsqu'on passe, et c'est ça un peu l'idée, lorsqu'on passe de la période « on est tombé en amour » à la période « Dieu m'appelle à aimer vraiment le conjoint tel qu'il est, tel qu'elle est », eh bien, on fait face aux défauts, aux obstacles tels qu'ils sont, et on peut même se dire à ce moment-là, je vis avec un étranger, je ne reconnais plus la personne avec qui je suis marié. Et parfois, je peux me sentir très seul dans mon mariage. Et je pense que tous ceux qui sont mariés depuis un certain temps l'ont peut-être déjà senti. En tout cas, moi, je sais de quoi je parle quand je dis « des fois, je me sens vraiment seul dans mon mariage ». Et j'ai un mariage... Que Dieu a beaucoup béni, mais ces moments-là, je les vis moi aussi. Mais, la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile peut nous ramener dans cette dynamique joyeuse où les défauts deviennent, encore une fois, secondaires. Un peu comme le temps où on était follement amoureux. On peut retrouver, à cause de l'Évangile, cette assurance de la réussite. Oui, c'est possible, et il y a beaucoup de couples chrétiens qui le vivent. Et vous aussi, vous pouvez le vivre. Quand je dis que les défauts deviennent secondaires, c'est parce que dans l'Évangile, n'oubliez pas qu'on a dit que le but du mariage chrétien, c'est, ou l'image, en tout cas celle qui est proposée dans le livre et qui est très biblique, c'est que deux bons amis chrétiens qui cheminent ensemble dans le processus de la sanctification, c'est-à-dire je marche avec ma conjointe, mon conjoint, alors que Dieu est en train de la préparer pour la vie du royaume, où elle sera complètement la nouvelle elle. Et elle, c'est la même chose. Je chemine à ses côtés et je participe. Je suis la personne clé, en quelque sorte, en dehors de Dieu, qui chemine, qui soutient, qui prie et qui est l'instrument de Dieu. Et donc, c'est encore mieux que d'être en amour, dans le sens où de pouvoir surmonter les obstacles et les défauts, ce n'est pas basé sur la force d'une extase émotionnelle, c'est basé sur la force d'une conviction qui est vraie, parce qu'elle est basée dans la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? Ça va? Oui? OK. C'est ça, j'ai bien de la misère avec mon PowerPoint ce matin. Merci pour votre patience. Donc, dans la vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on voit aussi lorsqu'on fait le cours forteresse. Quand je suis en Jésus-Christ, ce ne sont plus mes défauts qui me définissent. Parfois, on peut rencontrer quelqu'un qui s'est brouillé avec quelqu'un d'autre. Et on va leur demander, mais comment tu définis cette personne? Et ça peut arriver dans des cas comme ça que la personne va définir l'autre en fonction de pourquoi ils se sont séparés, pourquoi ils se sont brouillés, et il va définir l'autre selon ses défauts. En réalité, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus définis par nos défauts. Nous sommes définis par la nouvelle personne que Dieu a créée en nous, n'est-ce pas? Hein? En devenant chrétien, je vous rappelle, nous sommes uni à Jésus-Christ, Jésus-Christ est uni à nous, et c'est Christ en moi que Dieu est en train de construire en toi. Donc, David, il y a un nouveau David depuis que tu as reçu Christ, depuis que tu es devenu chrétien, un nouveau David qui est en construction et qui va, c'est sûr qu'il va être une réalité. Et pour l'éternité, tu seras le nouveau David, tu vas surmonter tous tes défauts. Amen. Et si ta femme croit ça, eh bien, ça va beaucoup l'aider à jouer son rôle. Et vice-versa, si tu vois dans Teresa, la nouvelle Teresa qui s'en vient et puis qui est déjà là, eh bien, tu vas l'aider à émerger. Et puis, tu ne vas pas voir ses défauts comme un obstacle à ton bien-être ou à ton épanouissement. Mais tu vas voir ses défauts comme la matière première avec laquelle Dieu travaille. Et toi aussi, tu vas dire, ben, je vais me retrousser les manches et je vais travailler avec Dieu. Mais attention, travailler avec Dieu, il faut faire attention. Nous, si on travaille avec un sentiment de supériorité ou de colère, ça ne marche pas. Moi, j'ai un exemple personnel de ce dont on parle ici. Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, je vois ma femme et je suis édifié par ma femme qui, la plupart des matins, s'approche joyeusement de Dieu dans des temps de prière solitaire et de lecture de la parole. Okay? Elle a son fauteuil spécial dans le salon qui est sa petite chapelle du matin. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Bon, et elle sait que je vous raconte ça. Hein, si j'ai vérifié. Donc, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, ça n'a pas toujours été comme ça. Le jour de notre mariage, en décembre 1994, lors de la réception, nos amis avaient fait un sketch pour se moquer de nous, de Cheryl et moi, de nos défauts respectifs. C'était drôle. C'était inconfortable par moments pour nous, mais c'était drôle. Et quelqu'un dans le sketch jouait le rôle de Marc, de moi. Il était mal peigné et mal habillé. J'arrive toujours pas à savoir pourquoi. Et une amie, de même, jouait Cheryl. Et à un moment donné, le personnage de Marc dit sèchement au personnage de Cheryl, « J'aimerais te voir, Cheryl, te promener un peu plus dans les pages de la Bible et un peu moins dans les centres d'achat. » C'était une réplique, en fait, drôle et bien trouvée parce qu'elle se moquait simultanément d'un défaut de chacun d'entre nous. Moi, le chrétien, plutôt pharisien, puis elle, la chrétienne, on va dire, plus facilement distraite. Et puis nous, on riait, on était assis dans les bancs des mariés, puis on riait. Mais je peux vous dire que quelques années plus tard, et je ne riais plus, non, mais j'ai commencé à être énervé par cela, et je me dis, mais qui est cette chrétienne distraite que j'ai mariée? Je pensais que ça allait passer. Vous connaissez un peu Cheryl. Et je me disais, oui, c'est ça. Est-ce qu'elle est trop préoccupée pour rechercher la bonté de Dieu le matin? Quand je me fâchais avec elle, ça ne marchait pas. Ça ne faisait qu'empirer les choses. Ça créait une spirale vraiment négative. C'est comme si je lui donnais un obstacle de plus pour avancer. Mais quand je lui disais quelque chose plutôt comme « Comment est-ce que je peux prier pour toi? Je vois que c'est parfois difficile pour toi, mais je sais que tu veux t'approcher de Dieu et je sais que tu vas y arriver. Hein? » Avec l'idée, Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de faire ressortir en chacun de nous la personne sanctifiée. Comment est-ce que je peux prier pour toi, Cheryl? Ça, ça l'encourageait, puis ça pouvait parfois mener à des bonnes conversations, mais de toute façon, c'est Dieu qui a agi en son temps, qui a fait le reste. Et puis, il y a eu des choses merveilleuses qui se sont passées dans sa vie. Aujourd'hui, c'est différent. Amen? Enfin, amen. Oui, je vous le dis. Il faut que vous m'écoutiez. Mais on dit amen dans le sens, Dieu est à l'œuvre dans ton conjoint. Ne dis jamais, « Ah, je suis découragé, Dieu n'est pas à l'œuvre dans mon conjoint. » Non, non, ne lâche pas. Si Dieu n'est pas pressé, il ne faut pas que tu le sois non plus. Et tu es là pour observer, pour être présente, pour aimer, pour pardonner, pour parler au bon moment. Amen? Oui. Parfois, il faut dire la vérité dans le mariage. Et ça c'est... Pardon? Dans l'amour, oui. Oui, voilà. Oui. Regardons maintenant un texte qui nous montre que... Bon, donc, une situation de mariage dans l'Église des premiers temps qui n'était pas facile, où c'est la conjointe. Ici, l'apôtre Pierre écrit... quelque chose de spécifique pour les femmes mariées. Et il dit un mot ici intéressant pour les femmes mariées où elles sentent vraiment une grosse distance spirituelle entre elles et leur mari. Et évidemment, il pouvait y avoir plusieurs raisons pour cela. Peut-être c'est un couple païen dont l'un des deux devient chrétien avant l'autre. Ça, c'est un des cas possibles. Et Pierre dit ceci, « Vous de même, femme, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah. Vous êtes devenues ses filles, c'est-à-dire les filles de Sarah, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Oui, un passage qui est très riche. J'avais juste une couple de questions pour vous donner l'occasion d'intervenir. Donc, parce qu'on voit ici, on peut imaginer que certaines de ces femmes, que Pierre sait qu'elles souffrent beaucoup. Elles souffrent de solitude, elles souffrent d'incompréhension, peut-être d'autres choses aussi. Mais quelles attitudes ces femmes sont-elles invitées par Pierre à avoir dans le quotidien? Quelle attitude voyez-vous que Pierre encourage ici? N'importe qui peut se risquer. Oui? Soumission, bon comportement envers le mari, pure et respectueuse. C'est les hommes qui parlent ici, là, oui. C'est, oui. Humilité, oui. Simplicité, dans le vêtement, par exemple, oui. Oui. Oui, savoir quand ne pas parler, hein? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous frappent peut-être vers la fin du passage? Oui, oui, l'espoir. C'est intéressant. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, si Pierre savait de quoi il parlait, et je pense que oui, il devait se dire, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'angoisse, de peur dans ce genre de situation. Et souvent, ça arrive. On est craintif pour l'avenir. Et c'est ça, est-ce que ce n'est pas l'espoir en Dieu qui doit venir jouer un rôle? Oui. Fidélité. Oui. Oui, c'est sous-entendu, la fidélité, oui. Quel est justement l'espoir que Pierre mentionne en passant? Il dit, vous pouvez même espérer ceci, ou devriez espérer ceci comme résultat. Que? Où tu vois ça? Quel mot? Ici, là? Voilà! Oui. Oui. C'est ça. Oui, oui, d'accord. Oui, on peut imaginer que Sarah aussi devait être patiente avec son mari, avec tous les défauts qu'il avait. Oui, donc, pensez-vous qu'une femme dans cette situation-là, qui choisit le chemin de la soumission, est-ce que c'est possible, avec cette attitude, d'être proactive dans la relation quand il faut exprimer un problème? Ou est-ce qu'il faut simplement se taire et prier? Qu'en pensez-vous? Ça dépend des situations, OK, d'accord. Prier, oui, oui. Oui. Je pose la question parce que, dans le livre que nous utilisons, et c'est aussi mon point de vue, que lorsqu'une femme mariée, par exemple, agit dans la soumission, elle ne doit jamais être seulement conciliante. Elle doit mettre en œuvre toutes ses ressources dans le dialogue avec son mari pour l'aider à assumer son rôle. Et ce qu'eux proposent, c'est que l'homme est le chef du foyer. C'est aussi mon enseignement à moi également. Donc, elle doit devenir le conseiller le plus proche de son mari, comme lui d'ailleurs pour elle. Donc, la soumission, c'est jamais quelque chose de passif. C'est quelque chose de proactif qui peut aller jusqu'à la confrontation quand il y a un problème grave. Comme tu disais, Richard, tantôt, dans le mariage, et ça s'applique au mari aussi des fois, il faut dire la vérité, toujours dans l'amour et dans la foi que c'est Dieu qui est à l'œuvre, n'est-ce pas? J'ajouterais aussi que si tu es séparé ou divorcé de ton conjoint, le principe s'applique aussi à toi. En fait, il y a quelque chose de plus important que le mariage, puis c'est le salut de ton conjoint, en réalité. On veut vraiment tout faire pour que notre conjoint, s'il n'est pas encore chrétien, devienne chrétien ou devienne chrétienne. S'il est chrétien, mais s'est éloigné de Dieu, se rapproche de Dieu, devienne cette personne que Dieu veut qu'elle soit. Et s'il est un chrétien qui marche avec le Seigneur, mais c'est la même chose, qu'il se rapproche davantage du Seigneur, qu'il soit sanctifié. Donc, si par la force des choses, tu es séparé ou divorcé, tu dois quand même continuer à aimer cette autre personne, à pardonner à cette personne, à prier pour sa sanctification ou pour son salut. Tu peux contribuer favorablement à son rapprochement du royaume de Dieu. Et ici, nous avons un texte que moi, je trouve important. C'est dans le cas d'une séparation dans un couple mixte. Donc, un des deux est chrétien, l'autre n'est pas chrétien, et c'est la personne non chrétienne qui ne supporte pas, par exemple, le style de vie chrétien de son conjoint, de sa conjointe, et qui veut partir, qui veut la fin de la relation. Alors, Paul dit ceci, « Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? » Ça, c'est 1 Corinthiens 7, 15 à 16. Alors, ici, on voit à la fois la miséricorde de Dieu qui va libérer les deux personnes dans un cas où le mariage devient invivable entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas. Mais deuxièmement, la miséricorde de Dieu dans le sens, on continue à mettre le salut de la personne non chrétienne en priorité. Donc, comment sais-tu si tu ne peux pas aider au salut de ton conjoint en la libérant et ensuite en continuant à l'aimer, à prier pour elle, à poser des actes du royaume dans la mesure du possible, bien sûr? C'est un sujet complexe, il faudrait en parler plus longuement. Alors oui, la séparation, le divorce, c'est toujours un drame, mais le travail de salut dans la personne qui est partie, cela doit continuer. Et tu peux continuer à y participer, ça fait même partie de tes responsabilités. Alors, concluons maintenant. Donc, mariage chrétien, nous travaillons à être le meilleur conjoint ou conjointe que Jésus nous appelle à être dans ce cheminement pour voir, prier pour notre conjoint alors qu'il est en train de devenir cette personne, cette nouvelle personne en Christ. Il y aura des périodes de solitude où on sent que l'autre, c'est presque un étranger. Mais rappelons-nous que dans ces temps-là, il faut aimer de plus belle. Il faut continuer à croire au plan de Dieu. Amen. Qui nous inspire? Eh bien, c'est Jésus, notre modèle. Jésus qui avait été condamné injustement par ses ennemis, les ennemis que nous sommes, puisqu'il est, il est mort à cause de nous. À la place de ses bourreaux, nous aurions fait la même chose. Condamné, ensuite, déjà cloué à la croix, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, si lui a pu prier ça pour ceux qui l'ont cloué à la croix, à bien plus forte raison est-ce qu'on doit le prier pour la personne bien-aimée que Dieu a mis à nos côtés. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ce travail divin de salut qui a mené Jésus à sa mort, c'est le même travail qui continue dans ton mariage. Jésus n'a pas simplement parlé d'amour, mais il l'a mis en action. Nous aussi, mettons-le en action. Oui, peut-être tu te dis, j'aimerais ça être plus comme Jésus, mais je suis rancunière. Je suis comme ça. Oui, j'aimerais ça être plus comme Jésus, mais moi, je me mets en colère et puis je ne peux pas me contrôler. Écoutez, non. nous sommes des nouvelles personnes en Jésus-Christ. Il va nous donner la force pour devenir le conjoint, le chrétien, la chrétienne que nous devons être. Et c'est pour ça que je nous invite maintenant à invoquer sa grâce. Est-ce qu'on a besoin de sa grâce? Est-ce que j'ai besoin de sa grâce dans mon foyer? Oui. Très bien. Oui, on a vraiment besoin de son aide dès aujourd'hui. Je vais inviter les musiciens déjà à s'approcher. Et avant de chanter, peut-être qu'il y en a qui aimeraient élever une prière pour demander l'aide de Dieu sur leur vie ou sur notre Église. Et donc, si les musiciens veulent faire un peu de musique d'arrière-plan, c'est bien. Mais levons-nous peut-être. Et ceux qui aimeraient élever une parole de prière, vous êtes les bienvenus. Amen. Oui, merci Seigneur. Et chaque personne, tu as entendu le cri de chacune, de chacun. Ô Père, merci parce que c'est ta bonté, ton immense et infinie bonté, celle qui coule depuis la croix, qui vient à nous ce matin, puis qui va aider chaque personne. Peut-être parce que tu cherches un conjoint et tu n'en trouves pas. Peut-être que tu vis des grosses difficultés dans ton mariage. Peu importe, Seigneur, merci d'avoir entendu le cri de chacun. Et Père, reçois maintenant notre adoration alors que nous allons chanter des chants de louange. Prépare nos cœurs pour que ce soit ton esprit qui chante en nous. Amen.